j'adore, je vais commencer par la chose la moins théorique, c'est-à-dire mais peut-être essentielle, c'est-à-dire par mes sentiments de cette journée, c'est-à-dire mon bonheur et mon malaise. Le bonheur, évidemment, lié au fait de participer au baptême de la mer, pour lequel je remercie évidemment mes amis, un baptême que j'espère aidera notre salut universitaire, le salut de l'université française européenne. Et je suis très heureux parce qu'évidemment, je pense que la tradition qui a cristallisé au Saint-Paron n'a rien d'une tradition particulière, mais avec une proposition aussi vaste qu'il y a, par exemple, pour la très petite histoire portée sur ses épaules, tout mon choix de venir en France. Donc, je suis évidemment, je le dis, comme presque une tâche. Perpétuer avec une proposition plus vaste. Le malaise est par contre lié à la question que nous nous posons aujourd'hui, une question de débat entre disciplines à laquelle j'ai toujours plus de mal à entrer et à formuler, dans laquelle j'ai du mal à retrouver un questionnement que j'arrive à articuler, d'où mon choix de mettre au centre de ma communication de la manière la plus directe, peut-être un peu partielle et impatiente, mais aussi directe, qui est permise par une rencontre amicale, une question que je trouve en tout cas importante et qu'il faudrait demain élaborer dans ces justes termes. Et c'est à ça que je vais me borner, c'est-à-dire à nous poser la question de la nature de la question que nous nous posons aujourd'hui. Et je vais même le faire à l'aide d'un penseur que je ne suis plus jusqu'au but, mais qui me paraît quand même du moins avoir cet avantage de poser les questions de manière ample et directe. Et donc, j'espère de contribuer à faire que les dissolutions de l'objet qui avance ne conduisent pas toujours au désarroi du chercheur. Ça, je pense que ça ne marche plus, donc je continue comme ça. Alors, je disais justement que les titres que j'ai proposés pour ma communication est certes trop ambitieux pour les forces, les lumières et d'ailleurs les temps dont je dispose, mais il est du moins, si je puis dire, faussement énigmatique. La seule ambition qu'on peut lui attribuer tient au fond en sa visée même de contribuer à rendre plausible la clarté et l'importance, les caractères éminemment politiques et scientifiques de la question qui l'inspire. Que suis-je ? En effet, le titre de mon exposé paraît devoir désormais prouver ce titre de légitimité dans le cadre de réflexions scientifiques concernant la vie politique des hommes, la vie moderne ou la vie humaine tout court. Nous ne formulons pas, me semble-t-il, nos projets de recherche et nos perspectives politiques à la lumière d'une telle interrogation. C'est là peut-être la vraie énigme. C'est en tout cas là les problèmes qui motivent ma communication. Il est sans doute un souci de s'en tenir à nos perplexités aux questions les plus pressantes, de chercher du moins les expliciter formulées adéquatement quand on a peu de temps. La rencontre d'aujourd'hui elle-même est d'ailleurs orientée par les désirs d'expliciter et d'éclairer un problème dont on peut se demander quelle est la formulation la plus adéquate ou la signification la plus profonde. S'agit-il de comprendre la nature et les dialogues des perspectives théoriques sur la politique au sein des sciences humaines et sociales ainsi que les propos de notre titre, ou plutôt de suivre immédiatement, si je peux dire, les regards qu'elle porte sur l'expérience humaine, les sociétés modernes, les corps politiques, c'est-à-dire les choses mêmes. Sans doute, les deux questions se recoupent-elles en partie ou décisivement, mais il importe d'examiner leurs différences ou comment elles nous conduisent à penser et à dialoguer différemment. Là encore, on pourrait reconnaître une énigme ou s'étonner. Il faudrait en effet se demander tout d'abord pourquoi nous révélons sans cesse, depuis longtemps, et toujours plus fréquemment, me semble-t-il, analyser les traits caractéristiques des non-disciplines et leurs possibles dialogues. La nature amicale de notre journée, comme je le disais tout à l'heure, autorise, je l'espère, les partages des questions que d'habitude nous gardons pour nous et les nos impressions quant à leurs réponses. De quoi est-il question dans les discussions disciplinaires ou, comme l'on dit, interdisciplinaires et dans les débats méthodologiques? La science d'une société participant de sa conscience ou de son régime, les discussions autour des perspectives scientifiques traduisent d'une certaine manière la recherche des choses mêmes, à l'occurrence la méditation sur la nature de l'expérience commune des hommes ou sous leur meilleure forme, mais on peut tirer des mêmes symptômes d'autres diagnostics. J'ai formulé ces dernières alternatives qui me paraissent également plausibles d'une manière simple ou rigoureuse pour faciliter le débat. D'un côté, l'éternel retour des débats sur les disciplines signale peut-être, comme l'a remarqué Fögelin il y a un demi-siècle dans une analyse apparentée à la nôtre, que la méthode tend toujours à remplacer les critères de la pertinence théorique dans nos réflexions toujours plus titubantes, alors que c'est la nature des phénomènes qui devrait dicter la démarche appropriée. De l'autre côté, nous ne cessons peut-être de chercher la collaboration des paradigmes, des enquêtes ou des points de vue pour retrouver la question, d'abord, de l'intelligence du tout ou de l'unité du phénomène humain, d'abord en tant que phénomène politique ou social. Ces deux soucis suggèrent en tout cas qu'il est pertinent d'examiner les regards que nous portons sur les objets de nos études et qu'il importe que ces regards ne nous conduisent pas à dissoudre, dès le départ, par méthode, l'unité de l'objet, qui ne nous éloigne pas des questions simples et premières. Il ne faut ici risquer une description sommaire de notre situation pour faire mesurer la plausibilité du point de départ de ma réflexion, du problème qui la concerne et peut-être, je l'espère, nous concerne, une description dont chacun pourra juger la part de vérité. Si l'on prend du moins les cas limites de notre biais scientifique, les cas extrêmes ou les plus cohérents, on pourrait dire quelque chose comme ceci. Par méthode, l'horizon de nos enquêtes ne semble pas prioritairement déterminé par la recherche de l'adéquation de nos démarches aux phénomènes. Par méthode, les tout politiques ou les tout tout court semblent condamnés à devenir l'unique non nécessaire, le seul objet que la pluralisation des domaines de la vie et de la science prive de légitimité conceptuelle et morale. Par méthode, l'abéance entre l'action et la pensée se cause par l'interdit ou l'incapacité d'unifier l'objet et les sujets de la connaissance, comme on dit, dans une seule méditation ou sous un seul registre, par méthode, nous ne devrions jamais rencontrer la question « que suis-je » dans nos recherches et dans nos objets. Pour le dire autrement, nous n'examinons pas nos disciplines à la lumière de leur rapport au phénomène, nous tendons à méconnaître le fait que leur discours propose ou comporte par eux-mêmes, dans leur grammaire même, des thèses sur l'objet, une perspective causale sur le devenir homme de l'homme, donc aussi une certaine teneur, ampleur ou tension du questionnement. Les chercheurs se trouvent, nous nous trouvons, comme ce matin mon compatriote le disait, toujours plus dans une situation marquée par des disciplines. Et rares paraissent ceux qui changent de démarche, qui deviennent par exemple sociologues ou philosophes des sciences sociales après avoir été philosophes politiques, simplement mais nécessairement à la suite d'une méditation sur l'approche la plus capable de comprendre l'homme et le monde. Paraphrasons à la lumière de la situation qui paraît la nôtre, ou qui semble nous défier, l'empereur de la sociologie allemande ou l'empereur allemand de la sociologie. On choisit rarement aujourd'hui son métier universitaire comme une manière de vivre et de comprendre la vie. On choisit précisément un métier ou une discipline. Nous n'exagérons pas beaucoup dans nos conversations lorsque nous constatons tristement que la pensée est presque irrésistiblement sommée d'investiguer les équilibres entre les écoles, leurs perspectives d'avenir, les possibilités de trouver des bourses ou reconnaissance institutionnelle, bien plus que les enjeux de l'âme ou de la cité. Vos réflexions sur les termes même du débat qui nous occupe aujourd'hui semblent dès lors justifiées, non pas justement pour prolonger encore les préalables méthodologiques de la discussion, mais pour se rapprocher des choses ou revenir au problème. Les remarques que je viens d'esquisser visaient à introduire, et si l'on veut justifier un court développement sur les présupposés et les questions propres à nos perspectives sur les politiques, que je brosserai à l'aide d'un penseur comme Léo Strauss. Ces noms est chargé de tant de présupposés, si j'ose dire, qu'un mot rapide au sujet de mon choix de les convoquer s'impose. Avec Strauss, pourrait-on objecter les débats et tranchés et faussés dès le départ. Cependant, il ne faut pas souscrire entièrement à sa conception de la philosophie politique ou à sa lecture de l'histoire, de la religion et des sciences sociales pour tirer de son œuvre des aperçus instructifs et puissants sur notre sujet. On pourrait résumer ainsi l'aspect qui me paraît contribuer objectivement à notre réflexion. Strauss me semble éclairer notre débat par la manière dont il incite et même contraint la pensée à déceler les présupposés fondamentaux des différentes possibilités de vie, donc des différentes manières de penser, des différentes sciences. Comme l'on sait, il s'évertue à démonter toute position ou proposition scientifique jusqu'à ses éléments, raison ou engagement premier, jusqu'à repérer les orientations fondamentales. C'est par cette manière de poser les questions, une manière qui ne renonce pas à écrire son objectif, la vérité, sans guillemets, qui nous aide à retrouver, me semble-t-il, un horizon plus ample et adéquat pour notre discussion. Je me bornerai ici à évoquer un passage de son œuvre, celui dans lequel il propose une caractérisation des différentes approches des choses politiques. Voilà. Dans un développement qu'on peut dire préliminaire, dans un passage donc fondateur de What is Political Philosophy, Strauss distingue, ou se sent obligé de distinguer, comme il l'écrit, la philosophie politique de la pensée politique, de la théorie politique, de la science politique, de la théologie politique et de la philosophie sociale. C'est bien res nostra. Les points de départ de sa réflexion disciplinaire, il faut les rappeler, est en revanche plus ambitieux que les nôtres. Il aide à la connaissance du tout, ou mieux, dans la recherche d'une compréhension complète de la question du tout. Nous sommes voués à examiner les articulations et les opinions qui les reflètent, car le tout nous échappe. Nous ne pouvons pas forcer la solution en absolutisant l'homogène ou l'hétérogène des phénomènes, mais nous ne pouvons escamoter son problème. Pour commencer, ou pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons écarter la réflexion compréhensible sur le tout propre à la vie politique, propre au régime. Je cite Strauss. La signification du bien commun est essentiellement controversée. L'ambiguïté de la fin de la politique vient de son caractère global, compréhensible. Ainsi naît la tentation de refuser ou ignorer les caractères global, compréhensible, de la politique et de traiter la politique comme un domaine isolé parmi un grand nombre d'autres. Mais il faut résister à cette tentation s'il est nécessaire d'affronter notre situation comme des êtres humains, c'est-à-dire de l'affronter dans sa totalité. The whole situation. Fin de citation. Les politiques n'est pas un domaine. Il définit la nature d'une société, polis, nation, état, parce qu'il a un rapport direct avec la fin qu'elle poursuit, avec les critères à la lumière duquel les actions sont jugées dans cette association humaine et les institutions fonctionnent. La science capable de rendre raison de la situation des hommes comme des êtres humains, pour les réciter, ne peut donc pas être neutre ni spécialisée. Il suffit de penser à la distinction qu'on trouve dans l'œuvre de Rawls entre théorie politique et doctrine compréhensible ou englobante, entre la justice politique et le bien des hommes, pour voir à quel point et en quel sens la définition de Strauss ne cède pas à la tentation, qui nous paraît aujourd'hui raisonnable comme nous l'avons vu ce matin, de refuser ou ignorer les caractères globaux de la politique. Sa perspective nous induit en tout cas à nous demander comment l'englobant et les politiques, les biens de l'homme et la vie en commun pourraient-ils être entièrement séparés? Rawls lui-même, je suis désolé que les amis Straussiens nous ont quittés, Rawls lui-même n'inclut-il pas du moins une partie de sa conception compréhensible, c'est le mot de Strauss, compréhensible, c'est-à-dire la société démocratique que sa théorie de son aveu même présuppose, dans sa conception de la justice simplement politique, entre guillemets, pour citer Strauss, pour citer Rawls? Laissons du moins ouverte la question. Les cadres pour l'examen des perspectives qui s'offrent à la réflexion des sciences ou politiques dont nous cherchons la hiérarchie et le dialogue est en tout cas fixé par Strauss, de telle sorte que nous ne contournons pas par méthode dès le départ les problèmes du tout, que nous sommes du moins disposés à explorer ces derniers, le tout, comme quelque chose qui ne se réduit pas fatalement à une addition d'individus ou points de vue, comme quelque chose qui, si je puis dire, dépend de l'action ou qui a un rapport essentiel avec l'âme humaine. On ne peut interpréter ces cadres problématiques comme un horizon méthodologique que dans le sens que Strauss donne à cette expression, horizon méthodologique. Voici ce qu'il écrit au cœur de son examen de l'œuvre de Max Weber dans Droit naturel histoire. C'est un passage que je n'ai jamais vu citer et je le trouve très important. La méthodologie, en tant que réflexion sur la démarche concrète de la science, est forcément réflexion sur les limites de la science. Si la science est en vérité la forme la plus haute de la connaissance humaine, la méthodologie est réflexion sur les limites de la connaissance humaine. Et si c'est la connaissance qui caractérise l'homme entre toutes les créatures terrestres, la méthodologie est réflexion sur les limites de l'humanité. sur la situation de l'homme en tant qu'homme. Fin de citation. Sous la surface des 600 pages privées de références et des notes qui composent la méthodologie weberienne des sciences sociales, Strauss décèle donc une philosophie ou un problème philosophique dont Max Weber était encore tout à fait conscient. Weber n'ignorait pas l'enjeu. Pressé de mieux formuler ce qui nous paraît un souci méthodologique, nous en venons donc à la distinction entre les perspectives politiques qui nous intéressent directement et que j'ai annoncé tout à l'heure. Quelques exemples suffiront à donner la mesure du type de réflexion qui nous est proposée et qui me paraît à même de nous préserver des lornières ou du bourbier et de la dispersion des points de vue. Plus qu'aux définitions, il faut prêter attention d'ailleurs aux arguments qui les accompagnent ou caractérisent, à la disposition humaine et aux présupposés conceptuels qui définissent l'enquête qu'il aurait en chacun associé. On peut laisser tomber les noms suivant les arguments. Si par exemple la philosophie politique ne doit pas être confondue pour Strauss avec la pensée politique, ou l'histoire d'une pensée politique entendue comme n'importe quel discours concernant la vie politique, c'est que celle-ci, la pensée politique, suppose donc son enquête, dans son enquête, l'indistinction entre opinion et connaissance. Donc l'indifférence à la distinction entre opinion et connaissance. Son critère interne, ou les motifs qui la tient en mouvement, n'est pas la vérité. Les critères de vérité également, mais autrement décisifs, dans la source qui pose Strauss, séparent essentiellement philosophie politique et théologie politique, les deux perspectives qui rendent leur conception l'une de la raison laissée elle-même, l'autre de la révélation divine. En quatre, cinq lignes d'une classification disciplinaire, Strauss définit les termes de ce qu'il tient pour l'alternative fondamentale de la vie humaine. Je ne vais pas discuter ici. Ce n'est pas ensuite, je veux qu'on garde l'attention à comment Strauss traite notre problème. Ce n'est pas ensuite le sujet, le tout, ou l'instrument, la raison, qui marque les caractères propres de la philosophie sociale, mais sa conception de la forme de la vie collective, ou une prémisse distinctive et riche en conséquences. Le tout le plus englobant, le tout qui fait autorité, le tout, j'ajoute, que les hommes ne peuvent pas, auquel les hommes ne peuvent pas se dérober, n'est plus pour elle la philosophie sociale, la communauté politique, mais la société. Ce qui, pour la philosophie politique classique, constitue la matière devient la forme, mais une forme qui n'étire pas son caractère, si je ne me trompe, de la délibération sur elle-même. Les passages d'une philosophie à l'autre, pour souligner cet aspect, supposent ou établissent une altération de la manière de concevoir l'homme dans le tout, donc aussi de la manière dont l'homme se rapporte activement au tout. Je laisse de côté les cas importants mais ambigus de la science politique pour passer rapidement à la discussion qui me paraît pour nous la plus instructive, celle qui concerne la théorie politique. Si d'une certaine manière la science politique est autrement pertinente, si l'on l'entend à la manière des anciens et des modernes, donc Strauss préserve la pertinence de l'idée des sciences politiques, la théorie politique recèle un oxymore cacophonique, une proposition d'emblée irrécevable pour un esprit classique. Ainsi, invité au début de son expérience américaine à aborder le sujet « What can we learn from political theory ?» notre sujet « Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la théorie politique ?» Strauss commence par rejeter l'expression « théorie politique » et pour la remplacer par celle à ses yeux plus adéquate de philosophie politique. Le choix n'est pas pédant. Strauss tient à souligner que la question n'est pas seulement nominale, nous dirions qu'elle ne relève pas des frontières disciplinaires conventionnelles ou de la division du travail universitaire. La notion même de théorie politique traduit ou trahit en effet les rejets de la distinction ancienne et pour Strauss encore pertinente entre sciences théoriques et sciences pratiques. Là, je prêche de couvert. Elle induit la pensée non pas à examiner la pratique, mais à se conduire comme une action ou à réduire toute action en détermination théorique. Philosophie politique, la notion de philosophie politique, doit donc être préférée pour Strauss, car elle n'implique pas de tels présupposés, un biais qui compromet quelque chose de l'enquête dès le départ. Elle définit ou nourrit la philosophie politique, en revanche, une perspective qui conduit à la recherche des critères de jugement des actions ou des régimes, sans s'en tenir, qui plus est, aux contraintes et opinions d'une époque donnée, sans s'en tenir précisément aux données que la théorie politique examine
nos opinions dont elle déroule systématiquement les prémices. Dans les passages de What is Political Philosophy que j'ai suivi jusqu'ici, la différence entre théorie politique et philosophie politique est pour ainsi dire élevée ou approfondie. Les passages où elle est résumée, cette différence, ne se borne en effet pas à répéter l'ambivalence liée à l'idée d'une connaissance théorique des choses pratiques. D'une certaine manière, ces passages compliquent même la distinction pour faire mesurer la portée de la réflexion qui concerne la vie politique quand elle est pleinement développée. Ces passages livrent aussi l'essence ou l'origine textuelle du titre de ma communication. Il faut donc les citer entièrement. Il s'agit d'un passage, j'ajoute, un des passages qui ont le plus compté dans ma vie, ou qui ont été une des plus grandes expériences de lecture de ma vie. Donc, il y a des passages de lecture, des expériences de lecture qui peuvent concerner des chercheurs en tant qu'êtres humains. Je cite Strauss. Par l'expression théorie politique, certains entendent souvent aujourd'hui des réflexions générales, compréhensibles, sur la situation politique aboutissant à la suggestion d'une politique générale, a broad policy. De telles réflexions font un dernier ressort appel à des principes acceptés par l'opinion publique ou pour par une partie considérable de l'opinion publique. Cela revient à dire qu'elles supposent dogmatiquement des principes qui mériteraient fort bien d'être interrogés. L'auto-émancipation de Pinsker et l'état juif de Hertz sont des ouvrages de théorie politique en ce sens. L'auto-émancipation de Pinsker porte comme devise « Si je ne me bats pas pour moi-même, qui le fera ? Et si ce n'est maintenant, quand ?» Elle omet les mots suivants « Et si je me bats uniquement pour moi-même, que suis-je ?» L'hérésie silencieux de la pensée exprimée dans les mots omis, continue Strauss, est de la part de Pinsker une prémisse cruciale de l'argumentation développée dans son opuscule. Pinsker ne justifie pas ces rejets. Pour en trouver une justification, il faudrait se tourner vers les 3e et les 16e chapitres du traité théologico-politique de Spinoza, un ouvrage d'un philosophe politique. J'ajoute que l'origine textuelle de ce passage, que suis-je, l'origine talmudique, est merveilleusement traitée dans un texte de Bruno Carsanti sur Leo Strauss et l'élection des Juifs. Explicitons à l'aide de l'autre texte que j'évoquais tout à l'heure jusqu'où Strauss nous conduit en traitant des disciplines. La méditation sur les leçons à tirer de la théorie politique, ou précisément de la philosophie politique, aboutit à une injonction qui est aussi un élargissement de l'horizon du questionnement. À la question « What can we learn from political theory ?», Strauss répond, je le cite, qu'il nous faut choisir entre la philosophie et la Bible. Je ne peux pas ici consacrer dans ce passage que je viens de citer tous les commentaires attentifs qu'il mériterait. Mais nous pouvons tirer de son argumentaire des suggestions sur notre sujet, sur ce qui serait une manière de penser conforme à l'unité aux articulations du problème humain. Les hommes considérés, j'ajoute, n'empêchent pas de les prendre comme paradigmatiques. L'exemple de Pinsker et de Hertz, qui n'envisageait pas de se candidat dans un GNRS, mais qui faisait de la théorie politique aux yeux de Strauss. Les hommes considérés n'empêchent pas de les prendre comme paradigmatiques s'il est vrai que pour Strauss, les problèmes juifs, je les cite, est le symbole le plus manifeste du problème humain en tant que problème social ou politique. Est-ce qu'il est vrai que l'omission silencieuse de la discussion des présupposés paraît affecter et rétrécir aussi les questionnements plus empiriques, rigoureux, ou en apparence moins liés à un projet politique que ce que nous appelons aujourd'hui théorie politique? En tout cas, si nous acceptons l'ampleur ou la teneur de cette manière d'approcher la science du politique, la visée régulatrice de notre discussion pourrait ou devrait devenir. Comment préserver et dérouler des questions primaires comme « que suis-je ?» ou que faire, quid sit deus, dans nos enquêtes historiques, dans nos commentaires de livres, dans nos analyses des choses politiques. Je crois que cette interrogation peut être dénichée, si je puis dire, dans les sociétés sciences modernes où elles semblent politiquement et méthodologiquement conjurées. Je n'évoque rien d'inattendu, du moins ici, mais il est peut-être utile de rappeler que dans la recherche incontournable des règles de l'action, dans l'examen des rapports entre l'ordre politique et l'ordre de l'âme, dans les classements des sociétés ou des corps politiques, Surtout dans les alternatives que la vie commune ne cesse de présenter, la question « qui suis-je » est toujours à l'œuvre. Nous pouvons encore la retrouver où elle est écrite en gros caractère, c'est-à-dire de la société globale, de la forme politique, en tout cas dans les tout de notre vie collective. Il y a bien des manières pour la manquer, il y a bien des manières pour la manquer, il me semble, pour glisser hors des questions primaires quand on perd l'intelligence et son caractère politique. Un autre passage de Strauss, tiré cette fois d'une critique de la science politique moderne, nous alerte sur ces derniers points. Pour ainsi dire, sur les rapports au tout que l'intelligence des présupposés des questions propres à la philosophie ou à la science ou politique entretient et éclaire. Je cite Strauss. Tout le monde connaît la conséquence de la démonstration qui présuppose la solution de toutes les questions importantes, selon laquelle il existe seulement une différence de degré entre la démocratie libérale et le communisme du point de vue de la coercition et de la liberté. J'ajoute que le passage qui présuppose la solution de toutes les questions importantes en anglais devient, ou était à l'origine, which presupposes the begging of all important questions. The begging, je crois que ça veut dire l'omission et pas du tout la solution. C'est un lapsus calami du traducteur français que je trouve assez révélateur. The begging of all important questions se présente peut-être très subtilement et nous tend un piège. Je tiens du moins à évoquer cet exemple, à partager cette capacité pour aller vers la conclusion. Car les forces et les motifs qui, dans sa substance ou son contenu à la vie humaine, à l'expérience commune, se réduisent pour nous à des paramètres. Là, je me lance dans une réflexion très partielle, encore très provisoire de ma réflexion. Nous ne considérons pas alors plus une proposition religieuse ou philosophique ou une pratique qui a marqué une communauté comme des arguments, comme des motifs d'action, comme des éléments ou des articulations du monde humain qui nous interpellent dans l'exigence même que nous avons de les comprendre. Nous ne considérons plus, par exemple, leur expression passée, une institution économique, une œuvre ou un régime, comme des documents de notre recherche, et des documents d'impossible bien qui est encore susceptible d'entrer dans l'institution de notre société et dans l'opération de notre vie. Et les considérant simplement comme des paramètres que nous voulons objectifs, mais d'une objectivité qui ne concerne pas l'être des choses et des vies, des paramètres en somme neutre, nous tendons imperceptiblement à glisser hors des questions qui comptent le plus pour nous. Nous nous voulons presque irrésistiblement avoir un matériau d'étude comme des suppléments d'âme qui changent sans cesse et ne nous changent jamais. Ainsi, pour notre intelligence des motifs humains, pour les chercheurs que nous sommes, devient-il difficile de prendre au sérieux des penseurs comme Strauss quand ils écrivent, par exemple, pour raviver l'essence de Jérusalem et Athènes, je répète, ainsi, pour notre intelligence des motifs humains, pour les chercheurs que nous sommes, devient-il difficile de prendre au sérieux des penseurs comme Strauss quand ils écrivent, par exemple, pour raviver l'essence de Jérusalem et Athènes, que, je cite Strauss, ce que nous appelons aujourd'hui culture est un lointain dérivé des préoccupations qui n'étaient pas des préoccupations pour la culture, mais pour des choses différentes et avant tout pour la vérité. J'ai beaucoup insisté sur la nature de nos questions parce que nous n'avons posé aucune à l'origine de cette journée et que je n'ai pas de réponse méthodologique ou autre à notre problème. Si jusqu'ici, et ce n'était pas le cas au début de ma vie ou de ma carrière, je me suis adressé à la philosophie politique, c'est qu'elle me semble précisément préservée. Là aussi, où elle paraît, pour ainsi dire, en retard, tous les termes des problèmes humains ou du problème humain, une faculté à bien y regarder éminente pour une expérience comme celle de l'homme, comme celle de l'homme moderne aussi, qui n'a pas de solution. Je ne sais pas quel est le dialogue le plus fécond pour nos manières d'aborder les articulations du phénomène humain, mais j'espère qu'il sera encore celui qui continue à rassembler intrinsèquement, comme des rayons différents qui convergent vers le même sens, ceux qui cherchent la vérité ou qui se posent sérieusement la question « Qui suis-je ?» Merci.
trop ce que j'étais censé faire, mais c'est ma faute. Parce que j'avais demandé aux organisateurs de m'épargner l'obligation d'un exposé. Et en écoutant Giulio et en ayant écouté les objections de Bruno vendredi et aussi de Francesco, j'ai presque envie de faire un exposé, ou un petit exposé en tout cas, sur cette question. Donc, je ne voudrais pas que le temps des questions pour Giulio, je l'entame en quelque sorte par mon intervention.
C'était un peu prévu comme ça.
On est en avance.
Bon, alors, donc, merci. Merci aux organisateurs qui ne prennent pas de vacances, si j'ose dire. Oui, cette question que Giulio a très bien posée, comment préserver les questions primaires dans l'enquête des sciences sociales ou l'enquête de nos débats. Je crois que cette question, on peut la poser sous des angles divers. Vendredi dernier, j'avais essayé de la poser sous l'angle du rapport entre l'action et l'histoire, la philosophie pratique et l'histoire, la guindoum et les actas. J'étais parti de la constatation que une succession d'expériences spirituelles, de formes politiques, d'aventures, paganisme, christianisme, temps moderne, après tout ce que l'on retrouve dans le préambule du traité constitutionnel auquel faisait allusion Philippe ce matin, cette succession d'éléments incompatibles entre lesquels il faudrait choisir et entre lesquels il est en un sens difficile ou impossible de choisir ou entre lesquels on a renoncé à choisir paraît maîtrisable non plus par un choix mais par une théorie lorsque on fait de cette succession de formes de vie incompatibles, des expressions d'une même substance qui sera l'histoire. Au fond, poser l'histoire comme l'élément dans lequel se déroulerait la vie humaine, c'est poser comme s'il était pratique, je veux dire comme s'il était un élément de la vie pratique, un élément que l'on détermine d'un point de vue théorique ou du point de vue du regard théorique. Centralité de la question d'histoire, centralité de la question de l'historicisme. Bruno disait l'histoire, c'est ce que nous avons de plus précieux. Mais qu'est-ce que c'est ce que nous avons de plus précieux? Qu'est-ce que c'est cette expérience supposée de l'histoire? Et je crois que tout le débat entre Strauss, et c'est ce que j'ajouterai juste par rapport à des studios, tout le débat entre Strauss et Heidegger repose là-dessus. Strauss, Heidegger dit, il y a une expérience inédite auquel ma pensée essaie de faire droit, c'est l'expérience de l'histoire, de l'être comme événement. Et Strauss dit, mais sans trop d'explications, il dit l'historicisme ne correspond pas à ne correspond pas à une expérience spécifique, absolument inédite. Il est une certaine interprétation de cette expérience. Et c'est là que Strauss est vraiment elliptique et que j'ose dire, si je puis me permettre le tirer avantage de son silence, c'est là que la notion de forme politique prend de l'intérêt. Parce que la philosophie politique, selon Strauss, il ne concerne que le régime politique. Le problème du régime politique est toujours le même. Les paramètres des régimes sont toujours les mêmes. Et donc, il ne comporte pas d'histoire. Et d'une certaine façon, si l'on prend le seul livre d'histoire qui est écrit Aristote, c'est-à-dire la constitution d'Athènes, c'est l'histoire du régime athénien. Et en ce sens, l'histoire du régime athénien ne fait que rendre plus complet notre compréhension du régime, mais ne nous introduit pas à un élément inédit. Or, l'on voit bien que le rapport à l'histoire, dans toute la détermination du terme histoire, est très différent dans la cité et dans la nation, pour prendre ces deux formes qui se répondent. Le passé de la cité a peu d'importance. Aristote n'a pas besoin de l'histoire d'Athènes pour décrire les problèmes politiques. Mais nous ne pouvons pas parler de nos nations, nous ne pouvions pas parler de nos nations sans faire l'histoire de nos nations. Le passé des nations est incomparablement plus important que le passé des cités. Les cités sont immédiatement agissantes, elles n'existent que par l'action continue. C'est moins vrai de la nation. C'est moins vrai de la nation qui a un long et lourd passé auquel elle doit nécessairement se rapporter, d'une façon ou d'une autre. Et la nation, comme l'histoire, est une façon de répondre à cette question, de faire tenir ensemble des expériences en principe incompatibles qui se réunissent mystérieusement, énigmatiquement, pour reprendre le terme de Julio, énigmatiquement dans cette substance historique qu'est l'histoire de la nation. Et ce sont les mêmes éléments. Ce sont les mêmes éléments, car l'histoire de nos nations, c'est comment nos nations sont devenues chrétiennes, puis ont quitté le christianisme. Donc, nous avons en quelque sorte, dans cette expérience, j'essaie de frayer un chemin entre l'expérience inédite extraordinaire que Heidegger, sur laquelle Heidegger prétend s'appuyer, et la proposition de Strauss d'une illusion d'expérience. Avec l'équivoque, c'est une illusion, c'est une expérience mal comprise, mais qui n'existe pas vraiment, puisqu'apparemment, Strauss ne doute pas en quoi elle consistait. Donc, je crois que l'histoire, au sens qu'elle a prise dans les sciences sociales, l'histoire de la société et la forme nationale, en un certain sens, répondent à la même perplexité de l'homme pratique. Le vecteur progressiste est porté par la succession de formes de vie incompatibles. Et on postule que cette succession trouve sa solution dans cet élément nouveau, parce que cet élément nouveau va nous permettre de faire le saut dans la quatrième forme, ou la troisième, qui va permettre de résoudre on ne sait comment, mais par la révolution, par l'homme nouveau, cette succession que dans ces termes même, paganisme, christianisme, temps moderne, on ne peut pas résoudre, on ne veut pas résoudre. Donc, c'est le vecteur progressiste, le vecteur du progrès. En fait, on suppose implicitement que malgré tout, que l'on soit chrétien, post-chrétien, ce qu'on voudra, le christianisme a un certain progrès par rapport au paganisme, mais les temps modernes, la démocratie non confessionnelle a un certain progrès par rapport au christianisme. Bon. Donc, vecteur progressiste porté par le véhicule national. Porté par le véhicule national, puisque, au fond, la même succession se retrouve, et elle est appropriée, si je peux dire, d'une autre façon, mais alors beaucoup plus ambivalente, puisque le mouvement, le vecteur progressiste, on ne le parcourt que dans une seule direction, sauf quelques philosophes, si j'ose dire, quelques critiques de la modernité. Mais le véhicule national, on peut le parcourir dans les deux sens, puisque évidemment, cette histoire, les moments de cette histoire sont appropriables au fond librement. Certains se réclameront de l'ancien régime et non pas du nouveau. Donc la France, peut-être l'histoire de France peut être parcourue d'une certaine façon dans les deux sens. Et il y a cette ambiguïté qui ne se retrouve pas dans la cité. Dans la cité, le débat est autour du régime, il n'est pas autour du temps, il n'est pas autour de la substance historique. Donc, nous avons cette... voilà comment je vois les éléments de cette expérience à laquelle Heidegger fait référence, mais qu'il dépolitise, qu'il ontologise et qu'il dépolitise, quelle que soit la profondeur de ses motifs politiques, et cette expérience que Strauss ne désigne pas, ne décrit pas et ne désigne pas. Et c'est l'expérience, donc, d'un élément, d'un problème qui est, encore une fois, la succession de formes de vie entre lesquelles nous ne savons pas comment choisir, succession à laquelle nous répondons par la représentation du progrès d'un côté, et d'autre part, en habitant, et dans ce sens en expérimentant, une communauté politique qui, mystérieusement, parcourt le vecteur progressiste, le vecteur du progrès, mais en permettant de le parcourir dans l'autre sens. Et en ce sens, je crois que l'expérience de l'histoire de Heidegger est absolument inséparable de l'expérience nationale. Et là, je ne veux pas faire une réduction à l'amour de Dieu, mais l'ontologie, effectivement, l'ontologie de Heidegger, c'est l'ontologie de la forme nationale. Pardon, d'être aussi grossier, mais je crois quand même que, quelle que soit la profondeur intrinsèque de la pensée de Heidegger, c'est inséparable de la formation. Donc, et je termine. Comment nous avons habité cette question, nous avons habité cette question en étant cette incertitude, en étant en ayant le regard théorique guidé par le vecteur du progrès et en habitant la forme nationale dans l'ambiguïté de cette forme qui nous permet à la fois de suivre le vecteur du progrès, mais encore une fois de le parcourir en sens inverse avec une certaine plausibilité. Les réactions, les nationalismes, les réactions nationales, les recours au passé de la nation. Mais ce qui l'a emporté, évidemment, historiquement, c'est la République, parce que la République a permis, c'est l'équilibre de la République, à faire, non pas coïncider, mais à harmoniser le vecteur du progrès et le véhicule national. Et donc, moderniser la France, républicaniser la France, a été la solution pratique politique au problème du paganisme, du christianisme, du post-christianisme. La forme républicaine a, jusqu'à un certain point et pour une certaine période, réconcilié la cité ancienne, l'Église et l'homme moderne. Et alors, j'en termine. Bon. Il me semble que la situation actuelle est singulière pour la raison suivante. Bon, si j'ai invoqué un peu avec insistance l'action, la nécessité de l'action, ce n'était pas, j'espère, un procédé rhétorique appelant à l'action pour justifier l'idée d'une philosophie pratique, mais parce que je crois précisément que et le vecteur progressiste et le véhicule national sont aujourd'hui, nous font défaut. Ils sont défaillants aujourd'hui Alors, je n'y reviens pas sur le christianisme, sur le judaïsme. Les questions qui étaient subsumées, englobées dans le processus, nous nous heurtons à elles, sans le secours, ou avec un secours de plus en plus faible, apporté par le vecteur progressiste et par la forme nationale, qui, en s'affaiblissant, en fait, dégage, laisse la place libre pour ces questions premières dont parlait, pour ces questions primaires dont parlait Jules. Et en ce sens, l'histoire s'affaiblissant dans sa double forme du progrès et de la nation, l'histoire s'affaiblissant, les questions pratiques au sens originel du terme, les questions du choix pratique, deviennent primaires, non seulement en elles-mêmes, elles ont toujours été, mais pour nous. Et c'est pourquoi je crois que, en effet, ce n'était pas une la reprise d'un topos ou d'un pathos des années décisives qui, où on peut trouver des échos pas très aimables, des anticipations pas très aimables du côté des années 20, de Schlegler, n'est-ce pas, les années décisives, mais parce que je crois que, de fait, n'ayant plus les secours ni du progressisme, ni de la forme nationale, eh bien, en effet, ces choix pratiques doivent de nouveau être considérés. La religion, par exemple, ne peut plus être tranquillement insérée sur un vecteur qui nous permet à la fois de profiter de ses bienfaits supposés, d'échapper à ses méfaits supposés ou vérifiés, je ne sais pas, sans les avoir à choisir une pour une. Donc, voilà le complément que je voulais ajouter à notre débat, parce que Bruno, j'avais le sentiment qu'il avait l'impression que je voulais lui prendre l'histoire, ce qu'il avait de plus précieux, et je ne voudrais pas que tu croies que je veux te prendre ce que tu as de plus précieux.
Ce qu'il y a de meilleur en nous.
Ce qu'il y a de meilleur, pardon.
En nous. Tout se joue dans l'interprétation de la forme.
Peut-être que
Jumbo
pourrait agir, et puis ensuite
Bruno. Si je ne réagis pas, évidemment, peut-être à ce que Pierre vient de dire. Je peux ajouter une chose que j'ai toujours remarqué et qui est quand même assez impressionnant et qui peut-être, peut faire les liens entre ce que nous venons de dire, c'est que les passages. Alors, les Ostroses passent comme Daniel Kagler, qui est, je crois, son interprète le plus important, ou du moins celui qui me convient le plus. Pardon ?
Non, je dis. C'est important entre guillemets.
C'est très bien que ce qui compte le plus pour Strauss, ce sont des alternatives que nous dirions fondamentales et qui restent au niveau des alternatives aux philosophes devant la foi et qui ne concerneraient donc pas, ce qui n'est pas faux, les alternatives pratiques liées à la vie commune dont Pierre maintenant parle. En même temps, si nous prenons ce texte, le texte que je viens de citer, dont je tire la citation, qui est effectivement les textes, je crois, qui révèlent l'alternative fondamentale pour Strauss, l'alternative, disons, fondatrice, celle sous son identité juive, l'exemple, c'est un choix par rapport aux communautés, par rapport au sionisme, par rapport à son appartenance inscription dans les peuples juifs. Et j'ajoute qu'il y a encore plus intéressant. Donc, l'exemple, il révèle pourquoi il est devenu philosophe politique, d'une certaine manière, il y en a d'autres. C'est un choix où l'exemple, il cite deux textes de deux juifs qui ont indiqué une possibilité pour les juifs, alors qu'ils ne pouvaient plus rester en Europe. Mais deux textes, justement, Strauss, dans lesquels il ne décèle pas la vraie alternative fondamentale, mais qui est toujours une alternative devant, l'entrée. Ou à la sortie, ou au fait de rester à côté de la vie d'un peuple. On dirait que c'est pour ça que je dis que si dans les textes de 1941, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la théorie politique ? Strauss, après tout, de manière assez scolaire ou scolastique, cite le fait que la théorie politique est ambivalente, parce que c'est une notion ambivalente, parce que suppose la distinction entre théorie et pratique, et donc il cite de manière très scolaire et très juste la distinction classique entre les sciences pratiques et théoriques. Là, je pense que le passage est très compliqué parce que pour dire la différence entre théorie politique et philosophie politique, il cite un cas pratique par rapport aux communautés, au choix d'entrer dans le communautaire. D'où le fait, je trouve, que Daniel Tanguay cite souvent le fait que Strauss pose une question zététique que nous dirons existentielle. Et Kant, alors qu'il se trouve dans le débat avec Eric Fögelin dans une lettre connue à devoir dire, si, discuter la chose, il dit qu'il ne comprend pas trop bien de quoi il s'agit avec l'existentiel, il préfère pratique. Oui, la seule chose qui me paraît s'approcher à cette notion dont vous parlez dans les terminologies qui me paraît adéquate, c'est pratique. Et donc, effectivement, les questions premières qui m'importent, que je trouve incontournables pour nous, sont en effet, à plusieurs égards, des choix qui concernent la vie commune et qui peut-être l'absence, l'indétermination commune, du moins, ou des choix que l'indétermination commune porte au jour de manière plus ou moins directe et violente. Peut-être que c'est, ça, c'est comme ça que je ferai des liens entre les deux.
Est-ce que Daniel te dit
J'aimerais poser une question à Pierre, plutôt que de Strauss. Et ça revient à Strauss aussi. Ça m'a frappé qu'un élément de ton exposé, j'ai une question très précise concernant ça. L'élément de l'exposé où tu dis, au fond, Strauss n'a pas identifié l'origine des panoramas historicistes. Il y a une formule assez étrange, effectivement, où il dit ça relève d'une expérience naturelle, mais qui a été en quelque sorte distorsionnée. Je suis d'accord avec toi que Lévis jette un espèce de voile pudique là-dessus. J'ai l'impression que toi, tu recherches, d'ailleurs, ça fait longtemps, depuis le fameux débat que tu as eu avec Philippe Reynaud, tu cherches une voie mitoyenne entre ce qu'on pourrait appeler l'historicisme radical à Heidegger et une forme de naturalisme absolu qu'on peut trouver chez Strauss. Et là, tu as révélé quelque chose concernant justement cette question de la condition historique. Tu as dit, d'une certaine façon, cette condition historique est liée avec la forme nationale. Et tu as dit, le nouveau qui arrive dans l'histoire, ou le nouveau qui arrive dans les expériences humaines et dans l'interprétation, est dû à cette forme politique nouvelle de national. Donc le national est lié avec l'histoire. Et tu as dit que la réponse à l'origine de l'historicisme, c'était effectivement dans les formes politiques ou dans l'histoire des formes politiques. Et ce qui m'a frappé, si j'ai bien compris, c'est que Strauss dit à peu près la même chose concernant l'origine, finalement, de l'historicisme. Parce qu'au fond, dans Natural Man and History, il dit bien que la réflexion sur l'historicité est venue dans le romantisme comme critique des théories contractualistes et de la raison abstraite, et que d'une certaine manière, il y avait entre l'historicisme de première génération, la première forme historiciste, et la forme nationale, un lien finalement d'adéquation très profond. Et d'une certaine façon, le même genre de critique qu'on trouve dans l'historicisme allemand de première manière se trouve dans les sciences sociales françaises avec des modalités différentes, bien sûr, mais à peu près la même idée. Donc, si je suis bien ton argument, tu acceptes cette première forme d'historicisme. C'est-à-dire, tu dis en quelque sorte qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit, qui est cette conscience historique ou cette historicité qui s'affirme à travers, disons, la nation. Est-ce que j'ai bien compris ou bien?
Oui et non. C'est-à-dire, je crois que ça garde un caractère, je ne veux pas abuser de l'énigme du mystère, hein, mais ça garde un caractère mystérieux. Je crois que, en tout cas, en effet, là, toutes les réflexions sur l'histoire, l'historicité, sont inconcevables sans l'advenue de cette forme politique. Simplement, la question est comment on la comprend, cette forme politique. Alors, tu as tout à fait raison que Strauss met l'accent sur, en effet, ce moment du premier historicisme, mais il me semble qu'il a tendance à comprendre la nation comme une seule particularité. Là, il faudrait reprendre ce qu'il dit sur Burke, parce que qui dans ce contexte serait en quelque sorte l'auteur central, parce que d'une certaine façon, Strauss le pousse à la périphérie, d'une certaine façon, il n'est pas central dans le développement, mais parce que Burke tient l'équilibre, il me semble, Philippe me corrigera, il tient l'équilibre entre les deux tendances, je veux dire. En effet, il oppose la tradition de la nation, si on veut, à l'abstraction moderne des révolutionnaires français. En même temps, le régime anglais qu'il défend intègre d'une certaine façon des normes universelles, une sorte de sagesse humaine universelle. Et donc il n'est ni.
Il parle même des true rights of men.
Oui, des true rights of men. Donc Burke, il est le point d'équilibre en quelque sorte entre les deux mouvements, parce qu'il est à la fois conservateur et d'une certaine façon progressiste, puisqu'il accepte les progrès de la Révolution anglaise. L'expérience de l'histoire, il me semble que on ne peut pas dire qu'il y a une expérience de l'histoire. On la trouve dans toutes sortes de formes de cette expérience, dont par exemple la pensée de Burke est une explicitation. Historicisme est une notion trop générale. La nation ne peut pas être comprise simplement comme la particularité d'un corps politique. Dans l'histoire de chaque nation, se rejoue le drame des formes de vie. La politique, la religion et ce qui vient après le christianisme. Donc, c'est cela que je soulignerai, et il me semble que ce n'est pas. Strauss dit peu de choses sur ces questions, il me semble que ce n'est pas tellement ce sur quoi il met l'accent. Il met l'accent sur la particularité, y compris chez Burke, parce qu'à nos sens, il est. Même si je crois que son texte sur Burke est très intéressant, il me semble qu'il pousse Burke un petit peu trop du côté de la défense de la particularité de mon régime, parce que c'est le mien. Ça fait partie de la rhétorique de Burke, mais peut-être moins du fond de sa pensée.
Oui,
alors, je ne vais pas vraiment répondre à ta réponse, Pierre, parce que je pense que c'est un dialogue qu'on aura dans le futur, et il ne faut pas prendre de temps. Mais simplement, je veux juste te dire ça. Si d'un côté le vecteur progressiste vient à manquer, si de l'autre le véhicule national vient à manquer, la question qui doit pouvoir être posée, c'est celle de savoir si nous sommes en mesure de redéfinir ce que veut dire progrès et ce que veut dire nation. Est-ce que nous avons eu la bonne définition de ces termes nous avons accompagné leur dégradation, et je te suis sur le diagnostic de cette dégradation. Simplement, je me demande si ce diagnostic n'a pas, je pense qu'il n'a pas les bonnes catégories, en fait, pour définir ce que veut dire réellement progrès et ce que veut dire réellement nation. En l'occurrence, il me semble que les deux termes sont transformés dès lors qu'on fait de la société le sujet du progrès et qu'on relie la nation à une forme d'organisation sociale. Je pense que là, les deux termes, on entre dans une redéfinition des deux termes. Je vais être plus précis même. Je pense que lorsque j'ai cité cette phrase de Durkheim, la phrase exacte c'est « L'histoire, est-ce qu'il y a de meilleur en nous ?» Donc c'est ça. C'est ça, ouais. Donc, et c'est un passage, enfin, c'est un texte magnifique. J'adore ce livre, L'évolution pédagogique en France. Je sais pas si vous l'avez en tête, c'est un très très beau livre sur l'enseignement secondaire et sur l'université en France, l'histoire. Et alors, justement, Durkheim, là, Pierre, nous donne une définition très simple de ce qu'est l'histoire pour lui et pourquoi il va la pratiquer. Hein. Et il dit à peu près ceci. Aujourd'hui, donc il fait un diagnostic assez simple sur son propre temps, tu vois déjà. Il dit les gens ne savent plus du tout ce qu'ils doivent à l'histoire. Ils ne savent plus du tout ce qu'ils doivent à l'histoire parce qu'ils considèrent que c'est un passé qui pèse sur eux. Et ils considèrent qu'ils doivent s'en affranchir et décider par eux-mêmes. Bref, il est face, lui, on a deux positions. Il y en a une donc, qui soit est nostalgique sur la grande valeur du passé, soit considère que ce passé doit être évacué. Et alors il y a cette définition lumineuse, il dit en fait l'histoire. C'est l'histoire des institutions. C'est l'histoire des institutions. Donc en fait, oui, tu vois, de ces choses sociales. C'est ça le sujet de l'histoire. Et il dit, les institutions sont plus conscientes que les individus. Ou du moins, il dit, c'est un inconscient, mais qui voit plus clair. Qui voit plus clair, cet inconscient-là voit plus clair que les individus qui pensent pouvoir choisir, ou que les États même, s'opposant en législateur, se libérant du poids du passé, pense pouvoir choisir. Et c'est là qu'il a cette formule, l'histoire, est-ce qu'il y a de meilleur en nous? C'est-à-dire, c'est finalement un vecteur qui rend nos choix plus mieux orientés. Voilà, mieux orientés. Alors, bon, on aura une discussion à conduire sur qu'est-ce que ça change que de mettre ainsi les institutions au principe de l'historicité, et est-ce que ça change la définition de l'historicisme? Pour moi, ça la change, ça la modifie. Cette catégorie d'historicisme, je ne pense pas qu'on puisse l'appliquer, qu'elle est définie par Proust, hein, qu'on puisse l'appliquer à cette pensée-là de l'histoire, et pour moi, c'est celle-là la pensée valide. Donc ça, c'est pour répondre pour relancer la question. Ensuite, je voudrais faire une remarque sur ton exposé qui m'a énormément plu. Hein. Je voudrais juste essayer de redéfinir exactement les termes du problème. D'ailleurs, ça va nous ramener un peu à la question de savoir de quoi le progrès est pour progrès, dans quelle direction va le progrès, qu'est-ce qu'on vise avec le progrès. On a plus ou moins en tête l'idée que le progrès qui a été là, présent à notre histoire, est un progrès qui va vers la liberté. Qui va vers la liberté, qui va vers l'émancipation. Le grand mot, c'est émancipation. Et quand Pinsker écrit auto-émancipation, il y a une sorte de coup de force dans l'emploi du terme. D'un certain point de vue, on comprend bien, c'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de s'émanciper soi-même. De l'autre, donc pour les Juifs, il s'agit de le faire sans concession par un État qui est le peuple d'accueil les encadre. Bon. En même temps, Pinsker donc, écrit juste après les pogroms, en fait, au début des années 1880. Il faut savoir, on n'a pas bien en tête ce que c'était que les pogroms. Hein. Les pogroms, c'était vraiment des meurtres de masse. On dit de masse, ça va plus de 100 000 morts par vague, etc. Donc c'est très important. Mais ça concerne la Russie, ça concerne l'Est. Ça concerne donc des communautés enclavées, des communautés relativement figées, qui n'ont pas été affectées en elles-mêmes par le mouvement de l'émancipation. Hein, c'est une réaction, donc c'est un discours éclairé de quelqu'un qui pense dans l'orbite pour des communautés de l'Europe de l'Est qui, elles, ne sont pas prises dans le mouvement de l'émancipation. Par contre, le texte de Herzl est très différent. Le texte de Herzl, lui, il a deux expériences, en fait. Il a les pogroms et il a l'affaire Dreyfus. Il a l'affaire Dreyfus. Et c'est une réaction à deux modes de persécution complètement différents et dans lesquels il voit un croisement. C'est-à-dire on ne s'en sortira ni du côté des communautés gelées, ni du côté de ces États qui disent nous émanciper et qui, en France en tout cas, l'ont effectivement fait, et même fait extrêmement brutalement, d'un seul coup, hein, avec la Révolution française. Donc même quand on est égaux en droit, en fait, il y a encore persécution. Et c'est ça que Strauss reprend quand il fait cette remarque géniale que dans la séquence talmudique, donc dans, en fait, si ce n'est pas maintenant à leur camp, hein, si je ne me bats pas pour moi, qui le fera? Et si je ne me bats que pour moi, que suis-je? C'est une formule du Talmud, il est maître d'une grande école à l'époque de la rédaction de la Mishnah. Enchaînait ces trois questions, il avait trouvé, enfin on trouve dans le qui s'appelle La sagesse des pères, qui est un recueil de commentaires talmudiques, vous trouvez, c'est disponible en librairie, vous pouvez lire les commentaires de ces formules, et vous verrez que ça n'a absolument rien à voir avec le commentaire qu'en fait Léo Strauss. Le commentaire des rabbinim, des médiévaux, etc., ça n'est pas du tout le commentaire de Strauss. Le commentaire de Strauss, il va jusqu'au point que tu dis, c'est-à-dire la solution sioniste, deux pères du sionisme, Pinsker et Herzl, reprennent deux des trois phrases, mais oublient, enfin, ou omettent, effectivement, pour reprendre, omettent la formule si je ne me bats que pour moi, que suis-je? Que suis-je ou qui suis-je? Et alors pourquoi c'est important pour lui de la faire ressurgir? C'est important pour lui de la faire ressurgir, pas pour rejoindre justement l'expérience des communautés fermées, pas pour rappeler que le Talmud avait mis un élément d'appartenance, on va dire, appeler ça comme ça, un élément d'appartenance au centre qui disparaît dans les solutions sionistes. C'est pas ça, puisque la phrase que tu as citée entièrement la citation, le texte, et tu as eu raison, va jusqu'à si on veut, nous, juifs modernes, répondre correctement à, enfin, faire émerger la troisième, il faut aller lire le traité théologico-politique de Spinoza, chapitre 3. Alors moi, ça, moi on a un point commun, Julio. C'est-à-dire cette phrase n'a pas cessé de me taper sur la tête depuis que je suis tout jeune. Donc, je ne dirais pas que c'est une des phrases que j'aime le plus. Mais en tout cas, c'est une phrase qui ne m'a pas quitté parce que c'est très ambigu. C'est très ambigu parce que qu'est-ce qu'il dit, chapitre 3 du TTP, donc, ben, il dit à la fois, donc c'est l'énoncé d'un juif qui sort de la communauté, incontestablement, d'un juif qui fait le procès de l'enclavement sa communauté, donc c'est un juif de l'émancipation, mais c'est un juif de l'émancipation qui envisage, dans le chapitre 3, que le peuple juif puisse regagner sa terre. Donc, d'une certaine manière, je n'ai jamais compris cette phrase de Strauss, parce que c'est utilisé contre le sionisme, hein, signifier un oubli du sionisme, en pointant le seul énoncé qui envisage la possibilité du sionisme dans Spinoza. Voilà. Alors, c'est très difficile à saisir, là, ce qui est en jeu. Mais je crois que ce qui est en jeu, c'est cette question de l'émancipation et et des conditions sociales de l'émancipation. En tout cas, moi, c'est dans cette direction ensuite que j'essayais de travailler. Hein. Je me suis affronté à la question et je me suis dit, eh bien, essaye de faire la généalogie de ce qui a rendu à la fois possible et même injonctif, qui a rendu si insistant l'appel à la liberté individuelle. De quelle société dépend et à quelle société devons-nous, en fait, à quelle société devons-nous cette émancipation.
Je pense que je vais faire une microbiographie.
D'abord que ton commentaire ne demande pas des réponses parce que c'était tout à fait intéressant et même exhaustif à l'intérieur des taïkures. J'ajoute juste une chose que d'abord tu me facilites d'une certaine manière la tâche parce que pour ainsi dire je n'ai pas besoin d'entrer dans la problématique que tu viens d'esquisser. Je n'étais pas juif, pour le dire de manière directe. En même temps, et en plus, je voulais les proposer dans cette réunion pour évoquer un certain régime de l'interrogation. Il me semble que le titre, le sous-titre de ma communication portait, évoquait l'idée de l'interrogation des présupposés et des questions primaires majeures. Alors là, mais je n'ai pas les réponses. Donc, il me semble que Strauss, alors encore une fois, je ne veux pas prendre les distances, mais je ne suis pas sûr ni de les comprendre, ni de les suivre. La question qui frappe, c'est qu'il impose un régime de l'interrogation très vaste et profond. On ne peut pas trop rigoler quand on se confronte avec Strauss. Et donc, il me semble que la tâche que je voulais, à l'aide, il me semble qu'on pouvait, déterrer un certain régime de l'interrogation, certaines problématiques à l'aide de Strauss. Notre problème, ou notre discussion, je pense que peut être traduit de la manière suivante. Est-ce que ce passage s'est réduit à la situation de juif moderne? Je ne suis pas sûr, mais je n'ai pas les preuves, si on peut dire. Parce que d'un côté, il me semble que l'intervention de Strauss soit plus vaste et qui peut être justement même assumée et relancée sous un angle différent d'une perspective tout à fait autre. Et ensuite, parce qu'il y a aussi l'effet à quelle réaction. Parce que Strauss, il y a un texte très énigmatique pour relancer le terme de l'énigme, qui s'intitule Perspectives on the Good Society, qui est en fait un contre-doux de Strauss à une réunion des protestants et juifs de Chicago. On ne sait pas quand il part, quand il ne part pas. En tout cas, il envisage même la possibilité d'une certaine émancipation de la société moderne, une émancipation commune des protestants et des juifs, si pour garder une certaine, identité, ça ne va pas, mais pour garder la substance de manière de vivre, quand même la société moderne, même quand elle ne pose pas de problèmes, comme aux États-Unis. Je crois qu'à l'époque, Strauss commençait à voir que la société moderne pouvait marcher, l'émancipation dont tu parles, et je crois que même là, il garde les questionnements qui m'intéressent, même si la société moderne est une société moderne s'avère possible et s'avère capable d'imposer la paix, il y a un questionnement qui dépasse l'émancipation moderne. Donc c'est là que je crois que peut-être notre interrogation peut prendre des formes différentes, mais pour ce qui concerne ce que tu viens de dire, j'apprends de toi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, des commentaires?
Oui, monsieur.
Non, mais je ne veux pas vous laisser la parole, c'est ça. Et là, je voulais faire une remarque sur l'exposé de Jung et puis peut-être une remarque pour prolonger la discussion sur l'histoire. Parce que sur Jung, c'était juste pour essayer de voir si j'ai bien compris. J'ai beaucoup apprécié ton intervention. Je voulais juste voir si quelle est la leçon un peu à tirer. Il me semble que là, il y a derrière ta réflexion, c'est en fait le côté étrange de la philosophie, l'exception d'engagement, le régime d'engagement de la philosophie, qui est effectivement quelque chose d'un peu bizarre, qu'on peut tout à fait comprendre, c'est en fait de la philosophie. Et c'est vrai que c'est la première chose qui frappe, c'est la différence, comment dire, entre la dimension totalisante de la philosophie, compréhensible, le fait que ça engage toute l'existence donc, par rapport au processus social. Et ce qui m'a énormément, la recherche, détaché qu'on peut faire en sciences sociales. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est ce tour-là que je voulais juste faire cette remarque. Je n'avais jamais réfléchi au fait qu'il pouvait y avoir quelque chose de l'ordre d'une mise à distance de l'engagement dans le choix d'un objet partiel. Le fait de choisir un objet insignifiant, en sorte, c'est parce que si on choisit un autre, on risque de se trouver impliqué dans l'objet. Et donc, il me semble, si je suis dans l'argumentation, c'est ça que la philosophie politique peut envoyé à la sociologie comme un miroir, c'est-à-dire très simplement ce qu'on appelle la question du choix de l'objet. Choisir un objet tel que, en fait, la totalité sociale, la totalité, est impliquée dans son analyse. Et au bout de l'analyse, le chercheur ne peut pas éviter l'engagement. Il ne peut pas éviter la question de son propre engagement dans l'analyse. Simplement, la moi, la différence entre discuter avec Weber, je l'appelle l'empereur, enfin, non, c'est peut-être l'empereur, je ne sais pas si c'est l'empereur de la sociologie. Et Durkheim, c'est que Durkheim, il est tout à fait explicite là-dessus. Durkheim, quand il dit, pourquoi il choisit le suicide? Il ne le choisit pas au hasard, c'est pas qu'il a un tas de sujets, puis il pioche, il prétend du suicide, c'est que c'est un objet total. Il choisit l'objet qui lui permet d'entrer dans la question politique de la société moderne, ce qui fait que il y a la conclusion pratique à la fin du livre. S'il choisit un autre objet, ça ne peut pas marcher. Il y a des objets qui ne conduisent pas à la question, qui ne dévoilent pas le problème pratique au sein duquel s'inscrit. Enfin, bon. Donc je pense que la philosophie politique, en raison même du fait qu'elle se pose bien avant la sociologie, c'est ça qu'elle envoie, si je suis ton raisonnement. Au sociologue, c'est la publication d'un choix d'objet dans lequel il en va à la fois de la totalité sociale, oui, de la politique, et de l'engagement même du savant, en quelque sorte, parce qu'il se retrouve inscrit. Bon. Est-ce que j'ai bien.
Oui, si,
si, non, c'était juste pour savoir si j'ai bien compris la.
Si, si, mais c'est une partie de la. D'abord, je ne tiens pas particulièrement à l'appeler philosophie politique. C'est-à-dire, il me semble que d'ailleurs, ce que je voulais dire au départ, c'est qu'il y a parmi les énigmes que j'ai citées, il y a l'énigme qu'on ne sort plus de la confrontation des points de vue. Voilà. Ça, c'est déjà un point. Et pour la notion du choix de l'objet, il est sûr et certain, si on se le voit dans certains contextes, que l'homme intelligent reconnaît la hiérarchie des objets, et l'homme non intelligent se perd dans la hiérarchie des objets. Donc, effectivement, on pourrait dire que la contribution, le fait d'étendre le miroir de la philosophie politique, ou si on veut l'appeler philosophie politique, a parmi ses contributions aussi celle de rappeler, d'indiquer, illustrer les objets qui renvoient l'image du tout de l'homme.
Oui.
En même temps, on pourrait dire que l'objet, quand le regard qu'on porte sur les objets est adéquat, est suffisamment, je dirais, vaste, profond ou juste, selon les termes, l'objet est toujours là. C'est déjà. Comment on regarde son tout. Et l'objet s'impose parfois. Et donc, est-ce que, je ne voudrais pas que quand même on se réduise à une idée artificielle de préserver l'importance des objets, comme si à l'école, on décidait qu'au centre avant, on décide des sujets, et ce sont les autres qui les. Non, je veux dire que c'est les regards qu'on porte sur l'objet déterminent aussi la manière de.
Tout à fait.
Tu vois L'objet, ce sont les opinions qui détermine notre manière de voir le tout. L'objet, ce sont évidemment des actions. L'objet, c'est aussi la manière de se rapporter au tout. C'est là la grande question, je trouve, de la différence entre la philosophie sociale et la politique. Comment nous définissons ces tout, hein? Je ne suis pas sûr qu'il se limite à ce que tu viens de dire. C'est pas simplement les choix de l'objet. Parce que l'objet d'un côté est déjà là, pour bien répéter. Et de l'autre, parfois, l'objet se présente lui-même. Donc,
la deuxième question, c'était sous l'histoire, parce que je ne suis pas sûr que, si je l'ai dit maintenant, il serait en désaccord avec la conclusion que c'est-à-dire qu'il y a une histoire de fonds politiques et un préalable à un choix politique réfléchi. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai lu votre dernier texte. Donc, en fait, si on suit votre présentation, il y a en quelque sorte un déficit de pensée historique chez les Grecs par urgence de l'action et un excès de pensée historique chez les modernes sous la forme du progrès. Mais j'ai l'impression qu'aucune des deux perspectives ne marche pour comprendre votre histoire à vous. C'est celle que c'est, bon. Donc, c'est ça ma question finalement. C'est-à-dire, c'était la chose que j'aurais voulu traiter au colloque. Parce qu'en fait, au final, j'en suis arrivé là, c'est-à-dire qu'il y a, au-delà de l'historicisme, disons, on peut appeler ça l'idéologie du moderne. Quand on s'en débarrasse, il y a, on découvre une autre manière d'aborder l'histoire. C'est ça la leçon que j'avais retenue comme préalable au choix politique. Donc, je pense que ce qui avait un peu surpris dans votre intervention, enfin, dans votre conférence, qui était parée au magnifique, je veux dire, mais c'était l'absence des conditions du choix, et donc des conditions de l'action politique. Parce que c'est un peu ça qu'on retient de nous, c'est-à-dire quand on a la critique de l'Europe, d'un engagement précipité vers l'Europe, c'est justement l'oubli de tout ce que comporte l'histoire européenne en tant qu'elle est une histoire de nation, par exemple. Donc, et j'avais pensé, je n'ai pas fait l'intervention vendredi, mais Aristote, dans la rhétorique, quand il conseille un livre à l'homme politique, il y a un passage très frappant, il dit le seul livre. Il doit lire les ouvrages d'histoire. C'est-à-dire, en somme, après l'histoire des Grecs, c'est aussi les sciences sociales, parce qu'il y a un peu tout chez Rodolphe. Mais en somme, c'est ça le type de savoir que doit avoir le Phronimos. Il doit bien agir, il doit connaître aussi ce qui s'est passé dans le passé. Donc, est-ce que vous seriez vraiment en désaccord avec ça?
Non, juste un mot. Chez les Grecs, il n'y a pas de déficit d'histoire, puisque. Ils n'ont pas cette histoire. Donc le problème ne se pose pas pour eux. On ne peut pas dire qu'il y a un déficit d'histoire pour les Grecs. Ils ne manquent de rien. Mais nous avons effectivement peut-être trop d'histoire. Ça, c'est une vieille. Goethe, déjà, a expliqué que les malheureux Européens, ils étouffaient sous le poids de l'histoire parce que les Américains, eux, ça les débarrassait. Donc il y a un excès d'histoire que nous savons comment porter. Et juste, j'ajoute simplement que l'expérience qui sous-tend l'historicisme, pour reprendre la chose dont nous parlions, je crois que c'est une expérience d'une certaine passivité. Une certaine passivité. Et d'où l'ambivalence complète du phénomène du nationalisme, parce que qui n'a pas du tout son équivalent chez les Grecs, par exemple. Le nationalisme veut tirer une politique, c'est-à-dire une action d'une réalité passive, c'est-à-dire ce qu'est la communauté par sa langue, par son climat, par sa particularité ineffable, c'est-à-dire toutes sortes de choses qui relèvent de la passivité. Et cette c'est de ce côté-là que je vois à la fois le problème, sinon pas la solution, mais retrouver les chemins d'une action en sachant quelle part de passivité, c'est-à-dire de choses reçues, nous reconnaissons aujourd'hui. Sur quelle base nous pouvons recommencer à agir, et donc ça suppose à chaque fois une redéfinition de la forme politique. Et on voit bien que la forme nationale est à la fois, c'est étirer indéfiniment longue histoire, telle qu'elle s'est effondrée sous son propre poids, elle a trop duré en un certain sens, mais rien ne lui succède, et donc je garde l'idée qu'il y a un certain effort de redéfinition de cette forme, parce que c'est encore une fois, c'est tout ce que nous avons. C'est tout ce que nous avons, et voilà. donc c'est plutôt un effet de prudence pratique plutôt que d'extase théorique devant, devant la nation, devant l'idole de la nation. Mais c'est à Camille de intervenir parce que nous l'avons privé de parole de façon.
Non, j'ai simplement j'ai utilisé 2-3 petites minutes pour effectivement réagir et puis peut-être conclure aussi cette journée. Alors dans un registre beaucoup moins exégétique, mais où les questions aussi d'une certaine façon d'émancipation, j'avais envie de, en quelque sorte, de donner un peu de chair à la matière programmatique du propos de Giulio. Vous avez eu une formule que je trouve très éclairante pour désigner le malaise de notre discipline lorsque vous évoquez l'incapacité d'unifier l'objet et le sujet de la connaissance dans une seule méditation et sous un seul registre. Et vous insistez sur ce que le politique dit de la nature d'une société en rappelant la nécessité d'articuler la réflexion sur la vie en commun à la perspective du bien de l'homme, et de la sorte vous énoncez un programme qui est aussi d'une certaine façon une forme de méthode. Il s'agit, dites-vous, de ne pas glisser hors des questions primaires en ne réduisant pas les expressions historiques à de simples paramètres. Il s'agit peut-être aussi, et là j'extrapole, mais peut-être aussi de considérer cette continuité des temps que Pierre Manon évoquait vendredi dernier et qui est synonyme aussi de continuité des questions à poser. Et puis vous avez cette formule, moi qui me sais tout à fait, du souci de rendre compte du phénomène humain. Et alors cette réflexion me paraît tout à fait féconde d'un point de vue heuristique, et je voudrais simplement donner en quelque sorte une preuve en évoquant, si vous me permettez, mes propres recherches du moment à l'aune de votre proposition. Alors je m'intéresse de façon très, très large, et je ne vais pas entrer du tout dans le détail, hein, à comprendre les mutations qui affectent la condition féminine contemporaine, et dans ce domaine, comme vous le savez, la perspective dominante, pour ne pas dire écrasante, c'est celle des études de genre. Alors il m'apparaît qu'elles nous fournissent un magnifique exemple de ce que peut produire de délétère cette dissociation du sujet de la connaissance et de l'objet de la recherche que vous évoquez. Je voudrais souligner cette étrangeté épistémologique que constitue un champ de recherche, hein, le champ des études féministes, qui a tout bonnement évacué ou fait disparaître l'objet de la recherche, c'est-à-dire le sujet féminin, et même, de certaines façons, fait disparaître aussi le sujet de connaissance, puisque les théoriciennes du féminisme parlent au nom se cachent derrière un discours très universel et abstrait qui les fait totalement s'évanouir, même comme sujet elles-mêmes. Pour les théoriciennes féministes aujourd'hui, en effet, il n'y a plus de femmes. Il n'y a plus de femmes au singulier, il n'y a même plus de femmes au pluriel, il n'y a que des facteurs croisés de domination et puis l'exigence d'une égalité qu'il faut impérativement garantir. Derrière cette quasi-obsession de l'égalité, ce qui disparaît, c'est la singularité sexuée des individus, la bicatégorisation du genre humain que l'on rejette au motif de cette insupportable différence des sexes. Reste que concrètement, nous continuons de vivre dans un monde peuplé d'hommes et de femmes, et qu'il me semble utile, voire même urgent, de penser leurs conditions, parce que celles-ci s'avèrent foncièrement inédites. Alors, comment faire pour penser conditions féminines, mais aussi la condition masculine, parce que je crois que les deux sont absolument liés, comment le faire dans une perspective de théorie politique, précisément. Et c'est là que j'essaye d'incarner un petit peu votre programme. Il s'agit d'abord, évidemment, de faire le détour par l'histoire, c'est-à-dire de faire cet effort de rendre compte des théories du passé, et notamment de ce schéma traditionnel qui a traversé l'histoire des idées par-delà même la rupture moderne, cette division entre le privé féminin et le public masculin, en partant d'Aristote, dont il faut toujours partir, jusqu'à la révolution féministe des années 70. Et
de gosse, c'est le patron.
On s'aperçoit au passage que si l'on adopte ce point de vue, eh bien la grande rupture, ce n'est plus celle des modernes, mais c'est la rupture de la révolution féministe, hein, parce que c'en est une véritablement des années 70. Et puis sur cette base généalogique, évidemment, il s'agit ensuite de rendre compte, autre exigence, je crois, de nos disciplines, rendre compte des grandes interprétations qui nous ont été données dans l'histoire du féminin, des interprétations qui naissent au même moment, à la fin du 19e siècle, c'est toujours ce fameux tournant qu'on a souvent évoqué aujourd'hui, l'interprétation que nous donne l'anthropologie, celle de la psychanalyse, et puis celle aussi de la théorie féministe qui apparaît au même moment. Et je crois que c'est seulement sur la base de ce socle généalogique et compréhensif que l'on peut ensuite, et ce que j'essaie de faire, repérer d'une part l'opération quasi magique par laquelle les études féministes ont fait disparaître le sujet féminin, et puis proposer ensuite, eh bien, tout simplement de le réintégrer, ce que je fais moi dans une perspective particulière, puisque j'ai adopté, disons, un point de vue phénoménologique en proposant de réintégrer le sujet féminin au travers d'une réflexion sur la corporité. C'est une autre histoire. Simplement pour revenir au programme, de l'intérêt donc de partir des questions simples et premières, en l'occurrence ici la question de la division sexuée du monde, pour les appréhender dans une perspective théorique, généalogique, philosophique, qui nous permettent enfin d'arriver à l'intelligence de leurs expressions les plus récentes. Et je crois que ça sera peut-être un mot de conclusion. Si dialogue il doit y avoir, il passe par cette mise en lumière de ce que notre démarche de théoricien apporte à la fois de complémentaire mais aussi de nécessaire au décryptage purement et je dirais même seulement télescopique parfois qu'opèrent les sciences sociales. Donc plus de lentilles grossissantes, mais un regard englobant, le regard englobant de la philosophie, et puis un regard englobant articulé à la perspective généalogique qui est celle de l'histoire. Voilà, c'était une forme de conclusion.